cobuzz.com. Rencontre par Mark Zisman.
Como casi todas las mujeres, a veces me gustaría estar más delgada, ¿no?
Ça, j'ai pas compris.
Tu veux que je le dise en français?
La dernière phrase.
No sé cómo se dice en francés. Je crois que moi, comme beaucoup de femmes, je voudrais être más delgada. ¿Cómo es que tú dices?
Más
delgada.
Attention à la voix.
Oui. Essaye, toi qui as dit, non, je sais. Pero nunca lo había hecho.
Bonjour David Gis.
Bonjour.
Alors David Gis, plusieurs casquettes, vous êtes producteur de radio, vous avez aussi fondé un label, vous êtes compositeur, mais c'est votre casquette du Festival Extension, qui est aussi, on pourrait peut-être dire, une extension de la Muse en Circuit, vous allez nous dire. Puisque la Muse en Circuit, donc, vous dirigez depuis 1999. Ce centre national de création musicale, principalement axé autour de la musique contemporaine, avait été créé autour de Luc Ferrari en 1982.
Oui.
Alors peut-être avant de parler justement de ce festival, de la programmation de cette édition 2013 qui se déroulera du 2 au 29 mai, parlez-nous un petit peu de ce qu'est la Muse en Circuit qui se trouve donc à Alfortville.
Donc la Muse en Circuit, centre national de création musicale, il en existe 6 en France, c'est un label assez récent puisque c'est un label de 96. Il y a un centre national à Marseille, le GMEM, un centre à Nice, le CIRM, un centre à Lyon, le GRAM, un à Reims, Césarée, un à Albi, GMEA, et qu'est-ce que j'oublie, et la Muse en Circuit, donc je crois que j'ai dit les 6, centre de création musicale. Donc ça, c'est un label qui a un certain nombre de cahiers des charges avec 4 grandes missions, accueil et création. Il faut rappeler pour l'histoire que ce sont des centres qui sont issus en général de projets de compositeurs très anciens. Un petit peu comme quand Luciano Berio en Italie a fondé Tempo Reale, qui est un centre de création, comme Boulez a fondé l'IRCAM comme un projet de compositeur, comme Stockhausen à Cologne a fait un studio de création. Au fond, les compositeurs dans les années 70-80 avaient besoin de se rassembler autour de technologies, parce qu'effectivement, à l'époque, pour avoir des machines, pour avoir des lieux de travail, en fait, ça coûtait très cher, il fallait donc monter une structure. C'est donc comme ça, ce sont nés tous ces studios qui peu à peu ont viré et sont devenus maintenant ce que sont les centres de création. C'est-à-dire Nice, Marseille, Lyon, la Muse sont le produit d'une histoire ancienne qui était au départ une sorte d'atelier de composition. Alors maintenant, on a un cahier des charges plus national, c'est-à-dire que accueil de créateurs, résidence, diffusion, dont le festival dont nous allons parler, pédagogie, évidemment, transmission, et puis recherche aussi, puisqu'on est associé à plein de programmes de développement et de recherche autour des nouvelles technologies, puisque notre cœur de cible, c'est la musique et les nouvelles technologies.
Comment a évolué la Muse entre 99, quand vous avez pris les clés du camion, on pourrait dire,
oui.
et aujourd'hui, quelle était d'ailleurs un petit peu votre feuille de route quand vous avez pris la direction de
ce centre? Disons, la feuille de route, elle était...
Entre un héritage, j'imagine, puis après, une touche personnelle, sans doute, que vous vouliez apporter.
Disons que l'héritage, il était justement de transformer un projet de compositeur qui était très lié à la personnalité de Luc Ferrari, ce qui avait d'ailleurs posé beaucoup de problèmes, parce que passer d'un état d'atelier autour d'un compositeur, même avec des accueils et des amis qui s'agrègent, c'est pas du tout la même nature de relation qu'un centre de création qui est au service de tous et qui n'est pas le projet d'un seul. Donc au fond, si j'avais à résumer mon projet, c'est bien ça, c'est-à-dire transformer un peu cet atelier tout en gardant la marque de Luc Ferrari, qui est, dont on pourra reparler.
Encore présente même dans le festival.
Oui, oui. Et d'essayer de faire que ça devienne un projet collectif. Et ça, j'ai essayé de le faire et je pense que je touche du bois à avoir un peu réussi à mettre dans le paysage institutionnel une structure qui est un centre. On a été, nous, labellisés tardivement, puisqu'on a été labellisés en 2004. Labellisé centre national, ça veut dire que maintenant c'est reconnu par l'État comme étant une structure équivalente aux autres et qui a les mêmes missions. Donc je crois que ça, c'était ça le pari, professionnaliser la structure, tout en ne perdant pas l'identité singulière qui était que Luc Ferrari était un atypique quand même. C'est pas Boulez, c'est pas Berio, c'est pas Stockhausen, pourtant c'est la même génération. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été marginal par rapport à la composition musicale. À la fois, il faisait de l'écriture instrumentale, orchestrale, j'allais dire classiquement, mais en même temps, cherchant toujours les voix différentes, les voix esthétiques différentes, les voix de relation. Je crois que ça a été un des premiers à travailler avec les DJ, ça personne ne le sait, dans la composition musicale. Bon, maintenant, c'est très répandu. Enfin, voilà, il a toujours exploré des chemins singuliers et j'ai essayé de continuer ça à la Muse.
Est-ce que cet alliage entre le cahier des charges, votre mission, votre philosophie, vos envies et l'héritage aussi de la Muse, a évolué tout au long de ces années entre 99 et aujourd'hui, avec différentes choses, c'est-à-dire il y a évidemment ce que vous avez envie de faire, mais il y a après ce qui se passe autour, que ça soit d'ordre économique, crise, que ça soit même d'ordre musical, les évolutions musicales.
Comment ça, votre, oui, vous avez raison de poser la question comme ça, c'est-à-dire ça a évolué doublement, à la fois par les contraintes, j'allais dire, socio-économiques, culturelles, qui font que j'étais dans un paysage, j'étais situé à Alfortville, j'étais dans une communauté d'agglomération particulière, j'étais dans une région, dans un département. Donc tout ça a structuré aussi mon travail. Je me suis mis en relation avec des partenaires liés à la proximité. Il y a eu tout un travail d'aménagement territorial. Donc, un travail lié aussi au financement, parce qu'effectivement on était dépendant des financements, donc il a fallu aller les chercher. Ont-ils augmenté, pas augmenté, enfin, toutes ces questions. Mais ça, c'est une chose. Mais le travail a aussi été structuré par, j'allais dire, une sorte d'évolution de la musique et de la place des technologies dans la musique. Je trouve qu'en 15 ans, les choses ont muté extraordinairement et plutôt dans le bon sens en ce qui nous concerne. Même si globalement, je suis parfois pessimiste sur la place culturelle que représente la musique de création et la musique contemporaine, parce que c'est vrai que dans le paysage culturel global, vous qui êtes des vendeurs de disques de toutes sortes de musiques, c'est vrai que nos musiques ont un petit peu de mal à exister. Par contre, sur le volet justement de la place des technologies, de l'électronique, de cette mouvance, oui qu'on peut dire électronique, en relation avec le travail de composition, il est en train de se passer des choses tout à fait incroyables. Quand on voit le festival Présence électronique faisant un festival concurrent du GRM, enfin concurrent, non amical, eh bien on se rend compte que là, il y a un public incroyablement jeune qui ne connaît pas Boulez, qui ne connaît pas Stockhausen, qui s'en tape, à vrai dire, mais qui vient pour la capacité qu'on a aujourd'hui dans un ordinateur de transformer du son, d'accéder à des moyens extraordinairement puissants qui, à l'époque, étaient réservés qu'à, justement, Boulez et à l'IRCAM.
Vous pensez justement que c'est cette donnée technologique, électronique, de par sa forte présence actuellement dans les musiques dites populaires, pop au sens populaire, qui peut justement permettre à la musique contemporaine de sortir peut-être de ce ghetto dans lequel on a tendance parfois à la mettre, ne serait-ce que même en matière de diffusion, comme vous l'avez dit.
Disons que c'est un peu mon espoir. Alors, de là à ce que. Enfin, un ensemble qui passe commande à un compositeur et qui écrit de la musique instrumentale, même de la musique mixte avec électronique, ça c'est une chose souvent difficile d'accès et qui culturellement représente souvent un peu une chose à distance. Mais par contre, l'espoir qu'il y ait un vivier justement de gens qui n'ont pas forcément une culture musicale, mais qui parlent sonore, uniquement parlent sonore, par leur appétence à découvrir d'autres sonorités, et le monde du numérique est là justement pour donner cette capacité-là, vont peut-être rentrer à l'intérieur de quelque chose, ils vont dire « Mais c'est quoi ce machin-là? C'est extraordinaire !» Et tout à coup, ils vont se rendre compte que c'est une pièce de musique mixte, tout à fait écrite par un compositeur qui sort du CNSM et qui a justement travaillé sur des technologies d'aujourd'hui. Donc ils vont se dire « Ah bah tiens, c'est un son qui me touche, qui me concerne. »
Est-ce que c'est pas ça justement la plus grosse frustration, ou peut-être même en même temps l'espoir, c'est de savoir que parfois des publics complètement extérieurs à ce milieu-là, au moment de le découvrir, sont tout à coup hypnotisés, sont intéressés et finissent par dire « je ne savais pas que ça existait ».
Bien sûr, mais c'est notre espoir permanent. C'est, quand on fait de la pédagogie, de la transmission et des concerts, c'est parce qu'on a ça dans chevillé et qu'on se dit « on va provoquer une sorte de choc », qui se dit « ah ben tiens, tout à coup, ça peut m'appartenir, je peux m'en emparer ». Toute la grande difficulté, c'est de faire que le public arrive dans la salle et merci d'être le relais de cette information.
Thank you. Alors comment est né le festival Extension? C'est un peu quoi? C'est un peu un coup de zoom annuel sur l'année passée?
Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai pensé, parce que ça n'existait pas avant, qu'effectivement, à partir du moment où on produisait, où on accueillait des créateurs, où on était dans la composition, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas montrer les choses. Donc au début, dans les 5 premières années, on s'est allié avec un théâtre parisien, puisqu'on faisait ça au théâtre Sylvia Montfort. C'était à la fois très bien parce qu'on était dans un seul endroit et on proposait des choses dans un même espace. C'était compliqué parce que le théâtre Sylvia Montfort avait une image particulière et que c'était compliqué de faire venir des gens de la musique contemporaine au théâtre Sylvia Montfort. Voilà. Donc après, j'ai changé d'attitude et je me suis dit, tiens, travaillons vraiment sur les théâtres de ville qui sont autour de nous. Ce qui n'est pas beaucoup plus facile, parce que c'est vrai que c'est des théâtres qui n'ont pas vocation à la création contemporaine, qui ont une vocation généraliste, faire du théâtre, de la musique, de la danse, du cinéma. Donc, il a fallu les convaincre, donc essayer d'avoir des rapports de conviction avec le théâtre de Cachan, de Villejuif, d'Ivry, enfin, toutes ces villes du département dans lesquelles nous nous trouvons. C'est vrai qu'on a concentré notre effort sur le département. Mais il faut dire qu'on a aussi beaucoup travaillé sur Paris intramuros, puisqu'on a fait beaucoup de choses avec la MP2A, enfin pas cette année, mais à Paris, la Maison de la Poésie. Là, cette année, on va être à la Cité des Arts. On va être où d'ailleurs? À Paris, au CRR, oui, au CRR avec l'ensemble de The 2M. Voilà, donc on est aussi dans Paris intramuros parce que, quoi qu'on dise, les journalistes, et la visibilité globale, le périphérique reste une barrière.
C'est un peu une question que je voulais vous demander. Qu'est-ce que c'était, un avantage ou un inconvénient? Alors, je sais que, par exemple, même une institution comme la Cité de la Musique qui se trouve juste au périph', alors certains diront du bon côté du périph'.
Oui, on va dire ça.
Est-ce que, justement, comment, par rapport à la quête d'un public et à fidéliser un public, ce que vous avez un peu évoqué aussi tout à l'heure, comment on fait justement quand on doit? C'est une difficulté,
Oui, c'est, ne cachons pas, c'est une difficulté parce que les habitudes ne sont pas prises. Parce que voilà, soit on vise le public, j'allais dire, endogamique, le public pour travailler à Radio France, je vais souvent au concert et donc je retrouve tous les concerts de musique contemporaine, que ce soit à l'espace de projection, à l'IRCAM, à la Cité.
Les mêmes personnes.
Je retrouve les mêmes personnes.
Têtes, on voit les mêmes têtes.
Il y a un tiers de la salle qui est constitué des mêmes personnes que je connais très bien. Bon, après, il y a les autres. Donc, ça, voilà. Alors, soit on vit de ce public-là et auquel cas, effectivement, c'est une vraie difficulté d'être en région, en région banlieusarde. Mais. Sinon, pour le travail que j'ai défendu tout à l'heure et que je continue à défendre, c'est-à-dire de trouver un nouveau public, d'essayer de convaincre des gens de proximité, là effectivement, il faut le faire. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais on essaye vraiment de le faire. Mais par exemple, le partenariat qu'on a avec la Maison des Arts de Créteil, ça, pour moi, c'est important parce qu'eux, ils ont aussi vocation généraliste, mais ils sont vraiment bien implantés depuis des années. C'est vraiment une scène importante. Et donc là on bénéficie de leur fonds d'abonnement, de public et tout ça. Et donc, du coup, des gens qui prennent un abonnement pour aller voir des grosses machines à la Maison des Arts de Créteil, ils se disent, tiens, je vais prendre aussi celui de la Muse, ils vont découvrir tout à coup quelque chose de nouveau.
Alors, à quoi va ressembler cette édition 2013 d'Extension? Comment on construit? Alors j'imagine, alors c'est une programmation particulière, puisque comme on l'a dit, c'est un peu une extension de la Muse, donc c'est un peu la présentation de la fin de l'année scolaire, on pourrait dire.
Oui, on peut dire
le
ça.
Le spectacle de danse de fin d'année.
J'aimerais pas que c'est cette tonalité-là.
Mais j'imagine qu'effectivement, il y a des choses qui sont, étant finalement la continuité de ce qui s'est passé dans une année.
Oui.
Donc comment se fait l'assemblage de la programmation?
Disons que sur cette année, c'est encore plus singulier, puisque c'est ma dernière année de programmation, puisque je quitterai mon poste à la fin de ce festival. Pour passer la main, et de manière volontaire. Et donc j'ai essayé de faire une programmation qui ressemble un tout petit peu à tout ce qu'on a pu faire à travers les différentes parties de la musique qui nous intéressaient. Donc évidemment, il y a les fidélités, j'allais dire, instrumentales, les fidélités avec des ensembles partenaires avec lesquels on a travaillé depuis longtemps et on continue à le faire. Je pense à l'ensemble Ars Nova, je pense à l'ensemble 2E2M et l'ensemble Multilatéral, trois ensembles. Et c'est drôle parce que ces trois générations d'ensembles, Multilatéral, c'est vraiment un jeune ensemble, Yann Robin, jeune compositeur qui monte un ensemble il y a 10 ans. Son premier concert, c'est la Muse qui l'a aidé et produit, donc c'est intéressant. Et donc je trouvais bien qu'il soit présent aussi dans cette fête de fin d'année, comme vous dites. Et donc il y aura la place pour ces trois ensembles. Ars Nova fête ses 50 ans donc, à Vitry, avec une création de Bernard Cavana formidable. 2E2M avec cette fidélité qu'on a depuis un certain nombre de saisons, puisqu'on les accompagne sur les parties de musique électronique. Et puis Multilatéral qui accepte de venir dans une soirée un peu singulière qui aura lieu au Générateur le 14 mai, où justement dans cet espace un peu atypique qu'est le Générateur à Gentilly, j'ai rassemblé un peu tous les amis qui ont été très proches de la musique et de mon travail. Des musiciens improvisateurs comme Sylvain Cassap, Laborantus, Thierry Ballas qui a été très proche avec la compagnie Inouï qui actuellement fait un carton avec Dark Side on the Moon, reprise sur scène et tout ça, et qui vient jouer avec moi sur une proposition inventive. L'ensemble Multilatéral qui va amener deux musiciens qui vont jouer des pièces écrites. Voilà, donc pour moi, ça c'est une soirée tout à fait identifiée, plus les lauréats du concours de Hörspiel, puisqu'on organise de manière biennale un concours Luc Ferrari, qui offre à des lauréats internationaux de composer à la Muse et de réaliser des pièces. Cette année, donc, ils ont fait chacun une pièce et elle sera donnée cette soirée-là.
Donc, vous l'avez dit, vous serez aussi sur scène.
Et je serai aussi sur scène, oui. Ah oui, et puis c'est la première année aussi où je me suis programmé. C'est des choses que je n'avais jamais osé faire jusqu'à... Enfin, osé. Je trouve que déontologiquement, c'est toujours parfois un peu compliqué. Et là, j'ai quand même fait... Il y a une création que j'ai créée au Théâtre de la Renaissance à Oulin et que je redonne au Kremlin Bicêtre. Ça s'appelle « Douleur de la fugue ». C'est le 16 mai. Et c'est avec une artiste formidable qui s'appelle Hélène Colombotti, qui est une percussionniste. C'est un spectacle et la voix de la SNCF, parce que c'est un spectacle qui est construit autour de Simone. Simone, qui est une vieille amie à qui j'ai demandé de prêter sa voix pour ce spectacle. C'est-à-dire qu'elle prête sa voix, qui tout à coup change de rôle et se met à guider cette jeune fille dans sa fugue.
Bébé, moi seulement, je... Bien sûr. Je m'assieds sans penser. Le voile fin de l'indifférence se déploie sur mon visage, tandis que je fiche en l'air le bouquet de mon exonération défaillante.
Comment vous, quel est à vous à titre personnel, donc aussi bien en tant que compositeur que journaliste, que programmateur, etc., que toutes ces casquettes, quel regard vous portez sur la musique contemporaine aujourd'hui? J'allais dire plutôt sur un aspect créatif. Vous avez parlé tout à l'heure des problématiques de la période un peu de transition, de comment les technologies utilisées par les musiciens plutôt de la sphère pop pouvaient intervenir. Quel regard comme ça à titre personnel vous portez sur...
Il est un petit peu le fil de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois pessimiste profondément culturellement, parce que je trouve que notre société dans sa globalité fait à la musique une place, et à la musique un peu globalement, musique classique, parce que c'est vrai que c'est là où il y a un paradoxe, c'est qu'on sait qu'il y a un enfant sur deux qui pratique un instrument de musique, le nombre de téléchargements musicaux et de circulation d'objets musicaux, le nombre de gens qui sont connectés à des oreillettes est incalculable, la musique est partout, et pourtant c'est souvent des musiques liées à des conformismes, à des identités, voilà. Mais pour les musiques d'expérimentation qui, justement, essayent de briser un peu ces barrières, d'aller un petit peu chercher au-delà des conventions, c'est très, très difficile parce qu'il y a peu de relais d'informations. Je dis souvent ça, par exemple, pour l'œil, on a l'occasion de voir la modernité de l'œil. C'est-à-dire que même par hasard, on marche dans la rue, on rentre dans un espace décoré, il est décoré, il n'est pas décoré comme il y a 150 ans. Or, les musiques qu'on entend, qui nous croisent en permanence, sont des musiques qui ont des intervalles et la composition est liée à des modes compositionnels qui sont malgré tout assez anciens. Et donc pour ça, je suis pessimiste. Et en même temps, je suis très optimiste parce que je me dis les technologies, la circulation, le foisonnement. Je vois à la radio, par exemple, je fais une émission qui s'appelle Electromania, c'est vraiment les musiques les plus marginales. Mais le nombre de productions qui tirent à 500 000 exemplaires et qui font tous les jours, il y a des trucs nouveaux, incroyables, d'inventivité. Je me dis, mais ça, c'est pas possible. Si ça continue comme ça, c'est que c'est là, c'est vivant, c'est actif. Et voilà.
Est-ce que les barrières, pour que tout ça, justement, ressorte, on pourrait dire, de sous terre, sont économiques, sont culturelles,
Oui, beaucoup. On l'a vu au cours du débat sur le CNM, vous savez, le Centre National de la Musique, qui... Bon, c'est vrai qu'on vit le produit d'une histoire, vous le savez bien, l'histoire industrielle de l'économie de la transmission de la musique, c'est l'industrie du disque, c'est l'industrie de l'objet qui a circulé, et donc je ne suis pas sûr qu'elle ait encore digéré la mutation qui est en train de se faire et qui est déjà même faite. Donc il y a certainement quelque chose dans une économie nouvelle à recréer. Le CNM était peut-être une idée comme celle-là, sauf qu'elle était mal foutue, mal construite, et voilà. Je pense qu'il y a effectivement un levier économique sans doute à trouver, quelque chose qui va faire que, bah, très simplement, que des gens gagnent de l'argent avec ça, et donc si des gens gagnent de l'argent avec ça, ça va circuler à nouveau mieux et plus simplement. C'est très simple.
Est-ce que la notion de marginalité n'a quand même pas toujours fait partie, justement, et d'être dans la marginalité, au sens d'être dans la marge,
oui.
N'a pas toujours été
fait
partie de l'ADN, justement, de la musique, de la création musicale contemporaine?
C'est vrai, mais j'avais l'impression, j'ai commencé ma carrière en tant qu'artiste variété. Et à l'époque, il n'y avait pas les espaces Girodi de 4 sur 3, voilà. Ça a commencé à apparaître, il faut dire mon grand âge. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ma petite affichette de chanteur de variété pouvait coexister avec les espaces publicitaires de l'époque. Aujourd'hui, le ratio entre la surface médiatique de la communication mainstream et la marginalité, à mon avis, c'est creusé. Peut-être qu'il faudrait faire des études là-dessus, mais c'est le sentiment que j'ai. Donc là, effectivement, il y a des ressorts, des leviers économiques peut-être à activer pour faire qu'on ne creuse pas de plus en plus le fossé. Je suis d'accord avec vous, la marginalité a toujours existé, on était toujours plus ou moins le off de quelqu'un et tout ça, enfin voilà. Mais j'ai l'impression que l'échelle de distance, à mon sens, est un peu creusée, mais ça c'est mon point de vue.
Quel serait le... Alors je sais que c'est difficile, comme vous êtes... En plus, vous êtes parti, vous faites partie de ce festival. Est-ce qu'il y a un ou deux concerts qui vous tiennent plus à cœur, peut-être?
Bon, en tout égotisme, je dirais le mien.
J'allais dire hors celui-ci.
Mais au-delà de ça, c'est vrai que j'ai eu la chance d'assister à la création de Bernard Cavanagh à Poitiers, qui va être reprise à Vitry. Ça va être un concert magnifique, je pense. J'aimerais bien que les gens soient assez nombreux à la soirée du 14 mai, parce que c'est vrai que ce sera une soirée identitaire de la muse, et c'est une sorte de fête de la muse, là, donc je l'ai un peu pensé comme ça. Mais c'est difficile, vous savez, c'est un peu nos enfants, donc on les aime tous. On les aime tous, c'est comme si c'est le choix de Sophie, votre histoire. Mais c'est vrai que Deux-Deux-Aimes, c'est très bien. Le concert monographique d'Yana Sou, c'est bien. j'ai du mal à choisir. Le concert itinéraire où on va jouer une pièce de Ferrari, c'est aussi très très important.
Donc finalement, on ne serait que recommander.
Oui, c'est difficile
d'aller voir.
Aller jeter un œil et une oreille à tout ça.
Est-ce que vous avez donné un petit peu quelques gouttes assez pessimistes en début d'entretien. Comment vous voyez justement l'avenir? Est-ce qu'il y a quand même malgré tout des petites lueurs, des petites lumières au bout du tunnel, qu'elles soient d'ordre créatif, d'ordre économique? C'est difficile puisqu'on est un peu en plein dans l'œil du cyclone en ce moment, économiquement. Est-ce que finalement, après la tempête, le calme, pour sortir un gros cliché?
Oui, mais... la floraison permanente d'objets non identifiés musicaux, moi, me laisse penser à l'optimisme, évidemment. Le fait que, quand même, dans les concerts, même les concerts un peu éloignés de Paris, il y a du monde, il y a ça aussi, il y a quand même... Alors, je ressors de Présence électronique, là, par exemple, c'était blindé, il y avait vraiment du monde pour voir des propositions très, très... très très abstraite parfois. Donc non, il y a quelques raisons de penser. Et puis, alors vous avez raison, vous l'avez dit, la marginalité a toujours existé. Rien n'a empêché la créativité. Par contre, il y a des systèmes qui parfois la favorisent un petit peu. Voilà, c'est simplement ça. Nous, moi je vais quitter ma fonction, j'allais dire, d'aménageur culturel. Mais c'est là où il faut essayer d'enfoncer les clous, c'est-à-dire essayer de dire, bah, peut-être qu'à des endroits à repérer, on peut peut-être faire des aides supplémentaires, des soutiens, des... compenser certaines inégalités. Et puis je le répète, hein, cette inégalité massive entre la grosse machine, je vois les concerts de Stomp, voilà. On est dans des sans commune mesure, la sortie d'un film important et un petit film, voilà. Je trouve que ça s'est vraiment creusé. Donc,
Bien, on conseillera donc à tout le monde d'aller au festival donc Extension qui va se dérouler donc du 2 au 29 mai dans divers lieux qu'on a cités. Je recommanderai à chacun soit sur Cobuzz, il y aura la programmation détaillée, ou sinon sur le site de la Muse en circuit. Merci David Gis.
Merci à vous.
Thank you.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.